tranche de vie, une émission proposée par JF. À l'heure de la sobriété, à l'heure où l'angoisse écologique est en train de remplacer l'anxiété, à l'heure où on nous invite à la sobriété de toutes les manières possibles, et en particulier dans le domaine des transports, où il s'agit maintenant d'économiser l'énergie au maximum, eh bien, la voiture est devenue effectivement un outil qu'on est incité à délaisser. Et c'est ce qui a généré un mode de transport qui s'appelle le covoiturage et qui a pris plusieurs formes. Une de ces formes, c'est le covoiturage organisé sous la forme de mise en relation de conducteurs et d'utilisateurs potentiels. Et une des plus importantes plateformes qui propose ce covoiturage organisé, c'est BlaBlaCar. Alors BlaBlaCar est né au début des années 2000. C'est une organisation qui est née justement de l'expérience d'un jeune Français aux États-Unis qui avait vu fonctionner ce qu'on appelle les carpool lanes, c'est-à-dire les voies où les voitures sont mises en pool. Moi, j'ai vu fonctionner effectivement déjà ce système aux États-Unis à la fin des années, au milieu des années 90. Donc c'était quelque chose qui existait déjà, c'est-à-dire qu'on réservait sur les voies de circulation une voie aux véhicules qui prenaient plus de deux personnes à bord. Les autres étant condamnés au bouchon et attendre, évidemment, puisque ça circulait beaucoup plus vite sur la voie réservée. Alors BlaBlaCar s'est développé très rapidement, ça a eu beaucoup de succès. Et on reviendra par la suite sur ce succès. Mais aujourd'hui, je voudrais faire parler quelqu'un qui a eu une expérience déjà longue de BlaBlaCar et qui va nous expliquer d'abord pourquoi elle en est venue à cette solution du covoiturage et ensuite qu'est-ce qu'elle en a retiré, comment se sont passées ces multiples expériences de covoiturage. Cette personne, c'est Mireille, que je remercie d'avoir accepté cette invitation malgré son hésitation puisque c'est son premier contact avec la radio. C'est parce que je connais Mireille depuis longtemps que nous allons nous tutoyer. Mireille, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de RLP.
J'en prie.
Et puis, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu en es venue à utiliser BlaBlaCar.
Bon, alors c'était il y a 10 ans, quand j'ai perdu mon compagnon. J'ai renoncé à conduire à ce moment-là. Et ma fille m'a inscrite d'office à BlaBlaCar. Enfin, sur la plateforme. Ça fait 10 ans, et ça fait 10 ans que je le pratique régulièrement. Et ça m'a donné l'occasion de connaître pas mal de monde. Enfin, disons, de côtoyer des gens que je n'aurais jamais côtoyé autrement. Et ça reflète bien, je pense, un aspect de la société. On a un échantillon de diversité, quoi.
Oui. D'abord, une chose qui est un petit peu étonnante, c'est que c'est pas toi qui es venu, donc, spontanément, à cette solution.
Ben, c'est-à-dire
que... Parce que tu ne conduisais pas.
Je ne conduisais plus, je ne voulais plus conduire. Et ma fille, face à ça, m'a inscrite d'office parce qu'elle savait que j'allais en avoir besoin. Moi, je suis sur une ligne pour aller voir mon père, par exemple, dans le Jura. Je n'ai pas de train. C'était impossible.
Quand tu dis je suis sur une ligne, ça veut dire que tu as un trajet
assez
fixe.
Assez souvent. Enfin, régulier, oui. Sur le Jura ou sur la Savoie où j'ai ma fille. Donc là, pas de train.
Donc là, tu as une solution qui est à la fois souple, économique,
oui.
Puisqu'on reviendra sur les aspects économiques.
Oui.
Peut-être plus économique que le train.
Oui, mais c'était pas mon motif premier.
Oui.
C'était surtout le fait de pouvoir aller où j'avais besoin d'aller, mais surtout avec des gens avec qui on pouvait parler, parce que la plupart du temps, on peut quand même échanger.
Ah oui, alors ça, justement, en me documentant un petit peu sur le fonctionnement de BlaBlaCar, j'ai vu qu'il y avait des codes. J'ai vu que c'était blablabla.
Oui,
alors explique-nous un petit peu tout ce que ça veut dire. Ça
c'est la théorie. C'est BlaBlaCar, c'est tout. On peut parler beaucoup. Bla un petit peu, blabla un peu plus. Mais ça c'est la.
Et blablabla beaucoup alors.
Oui, mais personne. Je pense pas que qui que ce soit s'attache à ça.
Ah bah écoute,
non, ça dépend de des situations. On va tomber sur un conducteur qui a pas envie vraiment de parler, donc moi je respecte.
Et à ce moment-là, il te le dit.
Non, tu le sens.
Oui.
Tu vois bien s'il a envie ou s'il est concentré sur sa route, ou alors si justement parce qu'il fait des longs trajets, il a envie d'échanger et de participer, parce que ouais. C'est quand même faire 600 km, des fois c'est quand t'es tout seul, c'est difficile.
Alors justement, cette question de la parole, elle est importante parce que cet échange finalement qui est fondé sur le partage d'un moyen de transport, il met en contact deux personnes qui par définition ne se connaissent pas.
C'est ça.
Donc, toi, les expériences que tu as eues, il faut combien de temps pour qu'il y ait une certaine détente qui s'installe entre l'utilisateur et le conducteur ?
Ça va vite. C'est même étonnant parce qu'on ne se connaît pas du tout, donc on n'a aucun point pour échanger au départ.
Oui.
Et ça vient progressivement, on part, ça peut être, mais c'est très varié. Hein. C'est difficile de dire parce que moi, en 10 ans, j'ai eu tellement de monde qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent.
Alors, est-ce que tu as une idée du nombre de fois que tu as utilisé
BlaBlaCar? Plus d'une centaine.
Plus d'une centaine de fois.
Oui. Okay. Je le sais parce qu'il y a, pas parce que je compte, mais parce qu'il y a des appréciations. En fonction
Oui. Il y a des appréciations qui sont données par les...
Par les deux, covoituré et le covoitureur.
Oui.
Donc là, je vois bien où j'en suis dans le nombre de... C'est ça qui me fait dire que j'ai dépassé la centaine. Voilà.
D'accord. Alors, concrètement, comment ça se passe? On va partir du moment où tu projettes un voyage et tu as envie de trouver un moyen de transport.
Bon, je m'inscris sur le site. Je suis déjà inscrite sur le site. Donc, je demande un trajet. Tel jour ou telle fourchette de date, un trajet, je dis n'importe quoi, Périgueux-Lyon, par exemple. Mmh. Et là, s'affiche un certain nombre de candidats.
Ceci avec une application qui est sur ton mobile.
Ah oui, sur... Voilà. Oui. Voilà. Alors là, il faut absolument un téléphone portable.
Hein. Oui.
Et,
ou un ordinateur.
Oui, ou un ordinateur.
Oui.
Et tu t'inscris, et la personne qui reçoit la demande la valide ou non. C'est arrivé qu'elle refuse. C'est toujours... C'est un petit peu aléatoire, ça. Mais à partir du moment où la personne accepte, on te communique...
C'est-à-dire que tu t'inscris et on te donne un choix entre un certain nombre de personnes qui vont faire ce trajet.
C'est ça. Il faut que ça colle avec les horaires, avec les tiens, bon. Oui. Et là, tu t'inscris, il accepte, on part du principe qu'il va accepter. Mmh. À ce moment-là, on nous communique le numéro de téléphone et lui a le nôtre. Alors là, je peux entrer en contact avec lui.
Donc, il y a un échange téléphonique préalable au déplacement.
Qui n'est pas obligatoire, hein, parce que c'est souvent par message.
Oui.
Bon, pour convenir au moins d'une heure ou d'un lieu précis.
Oui.
Parce que là aussi, des fois, ça donne lieu à des choses assez drôles.
Alors, est-ce que toi, en tant qu'utilisatrice, tu as un certain choix, une certaine possibilité de choix pour le lieu de prise en charge ?
En général, c'est une sortie d'autoroute. Donc si je pars de Périgueux, c'est Créavalais. Alors là, 90 fois sur 100. Sauf s'ils partent de Périgueux même, on s'entend à ce moment-là sur le lieu.
Parce que j'ai vu qu'il y avait des conducteurs, par exemple, qui râlaient en disant on nous demande d'aller prendre en charge à la gare alors qu'il y a toujours des embouteillages dans telle ou telle ville. Et dans des endroits qui sont impossibles.
Oui, pour Lyon, par exemple, je sais qu'il y a des conducteurs qui ne veulent pas entrer dans Lyon, et je comprends. Hein, parce que quand ça nous arrive, on perd beaucoup de temps. Mm-hmm. Mais autrement, non, il suffit de se dire que c'est une sortie d'autoroute, et ça va bien, hein, ça va tout seul. Hein.
Oui, mais alors une sortie d'autoroute, ici à Créavalais, tu te retrouves dans la Pampa, là, il n'y a pas
non,
de bus.
Non, si, il y a des bus, mais enfin, en général, moi j'ai des amis qui m'emmènent.
Ah, ça fait quand même une contrainte supplémentaire. Hein.
Je trouve que c'est une petite contrainte par rapport au service rendu.
Alors, on va revenir tout à l'heure sur l'aspect humain des échanges qui se produisent au fil de ces voyages. Combien ça coûte ? Comment se partage ?
Ah, c'est variable. Il y a des fourchettes. Il y a des fourchettes de prix. Je peux te donner un exemple.
Donc ça varie en fonction du trajet, mais le partage des frais, il s'agit des frais d'essence, des frais de péage si vous empruntez l'autoroute.
Je te donne un exemple. Je suis parti de Périgueux jusqu'à une petite ville du Jura. Là, j'ai payé 77 euros. Parce que la dame qui m'emmenait demandait 60 euros. Voilà. Elle, déjà pour elle. Parce qu'il y a une commission, évidemment, hein, une commission pour BlaBlaCar.
Alors, qui est...
Donc,
qui
à
est,
peu près de 25%.
Les sources qui sont données sur Internet, elles sont optimistes parce qu'ils parlent de 20%. Ils parlent même de 13 à 20%.
C'est plus, hein.
C'est plus que ça.
C'est plus, oui. Mais bon.
Donc il y a le quart de ce que tu payes qui va à BlaBlaCar.
À peu près, hein, mais j'ai fait le compte, hein, c'est à peu près ça. Mais bon, ça reste...
BlaBlaCar, je rappelle, hein, pour les auditeurs, qui en 2022 était estimé une valeur de 1 milliard d'euros. Hein, 10 millions d'utilisateurs.
Ah oui, on est nombreux, c'est sûr. Hein. Enfin, moi, je ne connais pas les autres plateformes, mais je pense que BlaBlaCar remporte, oui. des suffrages.
Donc, ces frais, c'est, comme je disais, les frais de carburant, les frais de...
D'autoroute. Les péages, ça revient très cher, hein, surtout. Bien sûr. Quand je vais en Savoie, je sais, ça coûte
et puis,
cher.
Est-ce qu'il y a un coefficient pour l'usure de la voiture, pour la fatigue du conducteur pour
ça, j'en sais rien. Nous, on nous demande un forfait. Donc on paye le forfait, et je précise qu'on ne donne rien au conducteur. Hein. C'est Blablacar, c'est sur le site de Blablacar, puisqu'ils ont nos coordonnées bancaires, que le prélèvement est fait. Automatiquement, tout de suite.
D'accord.
Et s'il y a refus, après, ou s'il y a modification, si la personne ne peut pas nous emmener pour une raison ou une autre, ou si moi je ne peux pas pour une raison ou une autre, bon ben là, on est remboursé.
Alors c'est Blablacar qui ensuite répartit l'argent qu'il perçoit. Et là, dans ce domaine-là, tu n'as jamais eu de mauvaise surprise?
Non. La somme qu'on nous demande, c'est exactement celle qu'on va devoir payer. Et on a le détail, hein. On a le détail, Blablacar et la part qui va à la personne qui nous emmène.
Ouais, ça te paraît rigoureux et honnête?
Oui, c'est sûr. Après, on ne s'occupe plus de rien. Non, moi je suis...
Je trouve très optimiste, hein, quand même.
Je ne vais pas dire que je suis inconditionnel, mais presque.
D'accord. Bon. Alors maintenant, les relations pendant le voyage, comment ça se passe d'un conducteur à l'autre?
Ah, c'est variable. Je te dis, il y a des gens qui...
S'il y a des conducteurs qui sont pressés, est-ce qu'il y a des conducteurs qui s'arrêtent tous les 10 km?
Non. Alors déjà, du côté de la sécurité, moi, je n'ai jamais eu peur avec un conducteur de Blablacar. Jamais. La conduite... D'ailleurs, je pars du principe que s'ils se proposent, c'est qu'ils sont sûrs d'eux. Enfin, ils ont confiance en eux. Donc, moi, je leur fais confiance. Hein. J'ai jamais eu peur ni de mauvaise surprise, déjà. Alors, c'est variable pour le trajet proprement dit. Il y a des gens qui veulent s'arrêter de temps en temps pour faire une pause parce qu'ils préfèrent. Il y en a qui conduisent sans pause, ou presque pas.
Oui. Enfin, t'as quand même le droit de lever le doigt pour demander un arrêt pipi, je suppose.
Dans l'ensemble... Ils proposent, ils nous disent, si vous voulez vous arrêter, vous dites oui. Et alors, c'est la partie technique.
Et alors, ces conducteurs, est-ce que tu as un recul suffisant pour avoir une idée de, non seulement de l'âge moyen, mais de l'évolution de l'âge des conducteurs?
On l'a. Quand les propositions de Blablacar, il y a l'âge. On a le prénom et l'âge.
Oui.
C'est tout.
Et toi, est-ce que tu te rends compte de quelque chose avec un recul de 10 ans? Est-ce que les conducteurs ont rajeuni? Est-ce qu'ils prennent de l'âge? Est-ce que c'est...
Non, il y a de tout.
C'est
tous
un,
les âges.
C'est un âge moyen
Non.
Tu n'as jamais eu d'appréhension si tu montes avec une vieille dame ou un jeune homme?
Non. Je suis partie avec un jeune homme qui avait 18 ans. Donc, il avait fait conduite accompagnée, qui conduisait parfaitement. Et je suis partie avec des gens âgés qui conduisaient très bien aussi. Hein. Non, je te dis, je n'ai pas d'appréhension de ce côté-là.
Et alors, les...
T'aurais aimé que j'en aie?
Non, pas du tout, mais je me renseigne parce que... Oui. Pour savoir aussi comment la fiabilité des conducteurs est appréciée par le Blablacar.
Mais je te dis, nous, on porte des appréciations sur la personne. Admettons que le voyage se passe mal, tu vas le dire. Tu vas dire pourquoi?
Oui, j'ai vu des appréciations.
On a une appréciation sur la conduite. Sur la conduite. Et ensuite, on nous demande, que pensez-vous de ce voyage, quoi? Donc tu dis ce que tu sens. Moi, je dis ce que je sens.
Alors, ça, c'est un aspect.
Oui.
Ensuite, on a parlé des arrêts volontaires, intempestifs, inopinés.
Intempestif, c'est une seule fois, on a été arrêté par la police.
Et alors à ce moment-là, la police vérifie l'identité de tous les passagers?
Non, pas du tout. On est arrêté parce qu'on était sur une bretelle, on allait prendre une bretelle et on était en excès de vitesse.
Ah, d'accord.
C'est tout. On discutait, là, alors je pense que je suis un peu fautive aussi parce qu'il n'a pas fait attention à la limitation.
Comment ça se passe quand il y a plusieurs passagers?
Eh bien, ça se passe que chacun occupe sa place.
Il y a plusieurs passagers, et j'ajoute, qui ne se connaissent pas.
Ah non, non. Mais sauf s'il y en a deux qui montent, qui se connaissent déjà. C'est variable. Hein. Moi, j'ai remarqué que dans la population plutôt jeune, il y a beaucoup d'écouteurs, de téléphones portables.
Oui.
Donc ça, le dialogue est
ça limite
un petit peu,
ça limite
un petit
la
peu empêché.
Oui. D'accord.
Mais autrement, ben, je sais pas, mais j'ai plusieurs exemples. Par exemple, une fois, j'étais avec une dame qui m'a dit « J'adore conduire, heureusement ». Et elle devait prendre deux passagers du côté de Brive, mais elle ne m'avait pas précisé où exactement, donc je n'ai pas pu l'aider. Et on roulait. Et puis elle me dit « Mais c'est bizarre, parce que sur mon téléphone, là, on devrait être arrivé, il n'y a rien ». Bon, elle les appelle, Et j'entends le monsieur qui dit « Oh là là, mais vous êtes beaucoup trop loin !» Donc on les avait ratés. Ben, elle a dit « Je fais demi-tour sur l'autoroute, c'est pas pratique. Hein. » Donc on s'est rallongé de je ne sais combien, on a fait demi-tour et on les a récupérés. C'était un monsieur d'un certain âge avec une jeune femme. Ils ne se connaissaient pas, mais entre-temps, ils avaient appris à se connaître puisqu'ils attendaient. On les a récupérés, ils étaient, lui surtout n'était pas très content. Et au fil du voyage, ça s'est complètement dégelé et ça a été très sympa. Et il nous a chacun parlé un peu de sa vie, enfin, toute proportion gardée. La conductrice a créé un groupe sur WhatsApp et on continue à s'envoyer des petits messages. Maintenant encore, presque un an après.
Oui. Donc, c'est après cette aventure du départ.
Il a dit d'ailleurs à un moment donné, il a dit je suis un emporté. Oui.
Ah bon.
Mais c'était très sympa.
Et autrement, tu as jamais eu d'incidents, de
non.
choses
Non, j'ai des choses plutôt positives. Oui, le tout premier Blablacar que j'ai fait, alors c'est toujours un peu, je ne sais pas du tout comment ça se passait. C'était un jeune couple, on a beaucoup parlé de cinéma, par exemple. C'était bien, et ça donne envie d'en faire d'autres, quoi, de voyage. Parce que si on reste sur un échec au premier, je ne suis pas sûr qu'on recommence. Par exemple, j'ai gardé un contact avec un jeune homme, il n'y a pas longtemps. Au mois de décembre, on était 5 dans une Clio avec des gros bagages.
Ah oui, là,
c'est... Et le jeune homme qui était à côté de moi, je lui donnais à peu près 25 ans, il avait ma valise entre ses genoux et il nous a fait rire pendant une heure. On n'a fait qu'une heure ensemble. Parce qu'après, il prenait le train à Lyon,
oui.
Bref. Et je ne sais pas, c'est parti un peu sur un pari. Il nous a donné sa carte. Je ne sais pas ce que les autres ont fait. Moi, je lui ai dit, je vous enverrai un message. Je lui ai envoyé un message, il a répondu. Et depuis décembre, on a des contacts réguliers. Mais un petit peu affectifs, on pourrait dire.
Oui.
C'est-à-dire qu'il me dit quand même un peu de choses sur sa vie, et moi aussi. Et il a 26 ans, ce garçon.
Et alors, le profil des utilisateurs, par exemple, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il fait dans la vie?
Tu sais, il travaille dans un hôtel à Genève. Et justement, comme il était très drôle, je lui ai dit « Vous devriez faire du théâtre.
Oui. »
Et à un moment donné, il m'a dit qu'il avait, il allait passer un concours. Devinez de quoi ? Je lui ai dit « Je suppose que c'est de l'improvisation orale. » Mais c'était en fait celui qui avait le plus d'humour vis-à-vis de la clientèle.
Vis-à-vis de la clientèle.
Ils étaient 27 concurrents, c'est lui qui a gagné. Il m'a envoyé une photo avec les fleurs qu'il avait gagnées, les cadeaux, les chocolats. Chocolat à Genève. Hein. Donc... c'est un peu comme... c'est une relation un peu amicale qui s'instaure. Ouais. Hein, et moi, j'attends ses petits messages et lui attend les miens.
Est-ce qu'il y a des conducteurs irascibles qui disent d'entrée, bon, vous ne m'adressez pas la parole
Non. Non, non. Au pire, ils n'ont pas envie de parler, mais ça, tu le sens et tu parles pas. Tu parles peu. Faut s'adapter. Hein, je crois que c'est une question de... Ça se sent.
Est-ce qu'à travers les contacts que tu as avec l'entreprise, avec Blablacar... Tu sens qu'il y a c'est une boîte qui est réputée pour avoir une très forte culture d'entreprise. Est-ce que ça se sent, ça ?
Non, parce que
c'est
tellement
impersonnel. Oui.
Non, non, c'est une transaction.
Oui.
On te propose quelque chose, tu acceptes, tu payes, et voilà, c'est avec Blablacar, plus l'appréciation, c'est tout. Ils ont quand même des personnes qui peuvent t'aider au cas où. Alors, tu vas sur...
Oui, il y a cette espèce de modérateur.
Helpers, oui. Oui.
Alors maintenant, pour l'âge des passagers, est-ce que tu as aussi noté quelque chose ?
Non, de
une
tout
évolution ?
Âge. Il y a beaucoup de jeunes, parce que je pense que c'est plus intéressant pour eux économiquement parlant.
Bien sûr, oui.
Mais il y a des vieilles personnes hein, qui osent quand même. Il y en a. Alors, c'est quand même un argument que j'ai souvent entendu. Oh, mais t'as pas la trouille ? Voilà, quand tu fais Blablacar. Évidemment, on ne connaît pas les gens, mais non ?
Parce que quand on regarde un petit peu les sites, on voit, on nous dit que les personnes âgées, c'est ceux qui sont en plus forte progression. Alors qu'il y a un tassement de l'utilisation par les jeunes.
Ah.
Et l'âge moyen des conducteurs aussi, ça a plutôt tendance à augmenter. Et alors il y a un chiffre, moi, qui m'a beaucoup étonné. Ça, c'est relatif à autre chose. C'est ce qu'on évoquait en introduction, en disant que maintenant, on s'est forcé d'être sobre autant que possible. C'est qu'il y a 70% des conducteurs et utilisateurs de Blablacar qui ont une voiture.
Ah.
C'est étonnant, ça.
Oui. Enfin, moi, je ne me penche pas sur les pourcentages. Hein.
Oui.
J'en sais rien. Je vois ce qui se passe quand je suis en voyage. Non, je trouve que c'est divers.
Est-ce qu'il y a des enfants, quelquefois ?
Non.
Ah non, pas d'enfants ?
Non. Un chat, parfois.
Oui.
Mais on nous prévient.
Pas de dispute.
Ah non, ça, j'ai jamais assisté à ça.
Dispute à bord. Dispute entre les passagers.
Une fois, il y a eu un petit incident quand je partais de Chambéry. Je me rappelle, le monsieur qui m'emmenait a attendu à la gare de Chambéry quelqu'un qui n'était pas là. Il avait essayé de le contacter la veille. Il n'y avait pas eu de réponse. Donc, il est parti et il me récupérait en route. Et on était déjà loin quand il a eu un coup de fil du monsieur qui a dit « J'arrive, ça y est, je suis à la gare ». Il a dit « Oh non, écoutez, bon, monsieur, mais j'ai essayé de vous appeler hier, je ne vous ai pas vu ce matin, j'ai attendu, je ne pouvais pas attendre plus ». Et là, le monsieur est passé au tutoiement assez désobligeant.
Tu veux dire le passager potentiel qui avait manqué.
Il a dit « Non, je suis désolé », et il a raccroché. Mais ça l'a perturbé parce qu'après, il a appelé son ami pour lui en parler. Mais c'est le seul incident auquel j'ai assisté.
Alors ça, c'est, à ton avis, c'est répercuté sur BlaBlaCar pour dire, voilà, ce client potentiel, il n'est pas fiable parce que...
Il a certainement mis un message, et ça, par contre, j'en ai pas connaissance. Hein. Oui. Il a certainement mis quelque chose pour dire qu'il lui avait, je cite ce qu'il lui a dit au téléphone, « T'es en train de me bousiller ma journée, là.
Oui. » Est-ce que tu as des projets d'utilisation de... Où est-ce que tu as, dans ton expérience, utilisé BlaBlaCar pour des déplacements autres, extra-familiaux, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est surtout pour voir ta fille, voir ton père.
J'en ai d'autres.
Cette solution.
Oui, ça arrive quand on se donne rendez-vous, par exemple, dans un point précis. C'est arrivé plusieurs fois, mais c'est surtout familial.
Oui.
Je constate, oui.
Mais là, tu as.
Ou amical.
Est-ce que, alors, il faut que les auditeurs sachent aussi que BlaBlaCar a émigré. C'est-à-dire que BlaBlaCar fonctionne à l'étranger, je crois, une dizaine de pays.
Oui.
Et donc, il y a des connexions possibles et des voyages possibles, des organisations possibles de voyages à l'étranger. Ça, c'est,
certainement,
ça te,
parce que.
Ça
j'ai,
te tente
mais j'ai déjà cherché pour la Grèce, mais c'est quand même un peu long, hein, ça.
Ça doit être, ça doit être assez.
Oui. Mais j'ai vu une fois un monsieur qui partait, alors je ne sais plus d'où, et qui allait jusqu'à Belgrade.
Oui.
Et il précisait qu'il avait 6 chiots d'Obermann à bord, plus la mère. Alors je ne sais pas s'il a eu du passager.
Ah, ça c'était une offre d'un conducteur.
Oui, c'était une offre.
Oui, d'accord.
Et j'en ai vu. Alors j'ai fait une fois un voyage avec un monsieur, un espagnol qui venait de Madrid. On s'est retrouvés à Créavalle péniblement. C'était assez cocasse parce qu'il ne parlait pas français, je ne parle pas espagnol. Donc on a parlé anglais. Et il allait jusqu'à Bâle. Donc ça fait des grands trajets quand même.
Oui.
Ce qui m'a frappé, moi, c'est que les gens faisaient des grands voyages. Je suis allé à Nîmes, sans problème. Je suis allé à Saint-Rémy-de-Provence, sans problème. Oui. En un seul voyage, d'une seule traite.
Oui. Et le retour, pareil.
Le retour, j'étais pas dans les mêmes circonstances. Oui. C'était pas les mêmes circonstances.
Mais il t'est arrivé de faire des voyages aller-retour, comme ça, organisés dès le départ, ou bien...
Si non, tu connaissais je ne crois à peu près pas avoir eu l'aller-retour, non. Non. Moi, ça aurait pu, hein. Non, mais il y a des gens qui font certains trajets régulièrement. Je sais que ma fille, elle a fait des trajets pour Nîmes depuis la Haute-Savoie réguliers. C'est là qu'on voit la vie des autres, quoi.
Alors, il y avait des moyens de transport comme ça, partagés, qui ont quasiment disparu, comme l'autostop qu'on pratiquait quand j'étais jeune.
J'en vois plus de stoppeurs.
Et qui ont disparu en partie pour des raisons tenant à la sécurité. Oui. Cette sécurité, toi, tu disais que tu avais l'impression qu'elle était bien contrôlée.
Ah, pour moi, oui.
Tu ne t'es jamais senti en insécurité.
J'ai eu vent d'un ou deux incidents, là, comme tout le monde, mais c'est tout. J'ai été même surprise. Mais en revanche, quand tu disais quand tu parlais des voies qui étaient réservées aux voitures faisant du covoiturage, c'est en train d'arriver chez nous, ça.
Oui. C'est inévitable pour l'accès aux villes. Hein. De toute façon, moi, j'ai vu fonctionner, justement, pour l'accès à des grandes villes aux États-Unis. Parce que par ailleurs, aux États-Unis, il y a très peu de covoiturage. Enfin, BlaBlaCar, c'est pas implanté aux États-Unis. Les gens n'éprouvent pas de besoin à mesure où l'essence est beaucoup moins chère. Et tu recommandes BlaBlaCar?
Bien sûr. Pour l'expérience que j'en ai, oui.
Est-ce que tu as connaissance de l'existence ou de l'expérience de gens qui ont utilisé d'autres plateformes de covoiturage?
Non. Je sais qu'ils existent, mais non, je ne suis jamais allé dessus parce que jusqu'à maintenant, j'ai pu faire avec BlaBlaCar.
Oui. Donc tu vas continuer. Voilà, ça m'ennuie un petit peu qu'il n'y ait aucun point négatif là. Tout est positif.
Bah écoute, je raconte, tu m'as demandé de parler, oui, de mon expérience. La mienne est plutôt positive, je ne vais pas m'inventer.
Qu'il s'agisse de l'organisation des voyages, que de la mise en relation des...
Non, ça se passe bien, ça se passe bien. Dès que tu as le numéro de
téléphone... Tout a l'air très huilé, là. Alors, évidemment, il faut tenir compte des progrès de l'outil numérique depuis la création de BlaBlaCar. Ça a dû faire que s'améliorer.
Alors, de temps en temps...
La géolocalisation, la mise en relation avec les mobiles...
Oui, ils ont fait déjà... Alors, par exemple, une année, moi, j'étais coincé à côté de Lyon. Et j'ai eu 9 refus consécutifs. Inexplicable, hein. Inexplicable, parce que c'était une sortie d'autoroute, donc la personne n'avait pas de détour à faire. Et au bout de 9 refus, ben, j'ai pris le train. J'ai mis 7 heures pour arriver à Périgueux.
Oui.
Et là, j'ai écrit à BlaBlaCar en disant que je n'avais pas pu contacter les conducteurs.
Oui.
C'était pas systématique. Alors, je ne sais pas si ça a joué, mais depuis, on peut systématiquement contacter le conducteur. Et ça, c'est bien pour éviter, justement, des erreurs ou des discordances.
Et ça, tu te rappelles de la date ?
Oui, il y a au moins 7 ans.
Oui.
Maintenant, tu as une petite mention, contacter le conducteur, systématique. Mmh. Alors là, si tu n'es pas sûr de son trajet, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et je le trouvais bizarre, son trajet, je lui ai passé un message, et de fait, c'était pas bon.
Oui. Pour qu'il te confirme à la fois le point de prise en charge, oui, et puis le trajet qu'il va
utiliser.
Alors là, j'ai
annulé. Voilà, c'est une des rares fois où j'ai annulé.
Parce que le trajet utilisé, je suppose, peut avoir une incidence sur les frais qui sont demandés.
C'est pas ça, c'est qu'il ne passe pas exactement là où je l'attendais.
Oui.
Alors là, c'est pas la peine d'essayer. Hein.
Son trajet... Ah oui, là, c'est la prise en charge, alors.
Oui, il avait répondu oui, mais oui, c'était pas possible.
D'accord.
Donc ça, c'est un petit ajustement, quoi.
Mireille, merci. Merci de toutes ces informations que tu nous as apportées sur BlaBlaCar.
Je t'en prie, je suis pas...
J'espère
je n'ai
que
pas
tu...
d'action.
Pourquoi pas, un jour, peut-être. Ou alors, peut-être qu'un jour, BlaBlaCar va instaurer ce qui marche sur les lignes aériennes, c'est-à-dire que tu auras des kilomètres gratuits que tu accumuleras.
Peut-être pour mes 80 ans, avec 100 000 kilomètres.
De faire un voyage en avion en classe affaires. Merci encore.
Merci, c'est
bon
moi.
Bon partage.
C'est moi qui te remercie.
Bonne sobriété. Oui. Et puis, continue à œuvrer pour le bien-être commun de la planète et le futur de la planète. Quoi, bien sûr.
Oui.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.